Salut les amis et bienvenue dans votre club foot nouvelle formule, le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous supporters rouges et bleus, et cette semaine énorme menu, Pascal Duprat qui dézingue ses joueurs, Fabrice Clément qui ouvre les comptes du club et l'impact du coronavirus sur la fin des championnats, programme fou pour ce Club Malherbe numéro 22 qui démarre maintenant.
Le club foot sur Tendance Ouest.
Alec, pour vous animer, pour vous apporter leur lumière sur ce dézingage du Prasien ou cette ouverture des finances par le président Julien Maillot de ce foot. Salut Julien.
Salut Sylvain. Salut à tous.
Salut à toi aussi Pierre-Charles Binet.
Salut Sylvain, bonjour à tous.
Bon, eh ben messieurs, on est bien là, hein ?
On est pas mal.
Ça a pas gagné ?
Non.
Ça a pas gagné, et pourtant, c'était pas mal quand même, Julien Maillot, ce match à Châteauroux pour les Malherbistes, perdu 2-1 dans les derniers instants.
Oui, c'était pas mal. C'était pas, en tout cas, il y avait rien de vraiment affolant. En fait, je sais plus qui a dit sur Twitter, mais je suis tout à fait d'accord avec cette phrase. C'est la première fois qu'on perd un match sans que ce soit tout à fait désespérant. On s'est procuré des occasions. On n'en a pas concédé tant que ça, je trouve. En tout cas, moins que lors du dernier match contre Grenoble, qu'on avait pourtant gagné. Pourtant, c'est encore un peu dommage, on a encore baissé le pied au cours de la dernière demi-heure et ça a suffi pour que Grenoble profite de ce faux rythme pour nous planter dans les dernières secondes.
Bon, sauf que c'était Châteauroux, mais c'est pas très grave. Voilà, c'était Châteauroux, mais on est pas mal. Mais autrement, c'était bien ce que t'as dit.
J'ai parlé
c'était
de
bien.
Juste avant.
C'était bien. En attendant, ben y en a qui n'étaient pas du tout d'accord avec vous, ni avec vous, Pierre-Charles Binet, ni avec vous, Julien Maillot de SoFoot. C'est Pascal Duprat, 5-4-3-2-1, dézingage en règle.
En fait, le sport professionnel et le football professionnel aujourd'hui, quand on est arrière latéral, on pense qu'à une chose, c'est attaquer. Ils n'aiment pas défendre. On joue attaquant alors. Autrement, c'est une usurpation de poste. Quand on joue arrière-latéral, on défend. Le petit Joaquini qui est préoccupé par sa sélection nationale plutôt que de mettre les ballons au fond. Ouais, la pédagogie, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Cette fois-ci, je le fais par vos ondes et vos antennes. D'aucuns diront qu'il ne faut pas le faire comme ceci. Mais là, ce soir, j'ai vraiment envie de le faire comme ça, quoi. En fait, c'est une saison où on n'a pas envie de vivre de belles choses. On a envie de vivre des situations de mièvre. Une belle équipe de mièvre. Rien d'autre à dire. Bonne soirée à tous.
Le club foot sur Tendance Ouest.
Ah là, il y a des engages, messieurs. Pierre-Charles, pourquoi une saillie comme ça ?
Toujours.
Ouais, enfin là, on est quand même.
Bien sûr, mais non, mais c'est même plus surprenant. Et en fait, c'était marrant quand c'était avec les joueurs de Toulouse. C'était marrant c'était avec les joueurs d'Evian. Et en fait, quand c'est nos joueurs, et ben en fait, c'est vraiment relou, je trouve, comme attitude.
C'est vrai ça, Julien Maillot. Vous souscrivez à ça ?
Alors moi, déjà, ça m'amusait pas beaucoup chez les autres, mais à la limite, je me disais que c'était pas tellement notre problème. Mais là, enfin, il y a deux choses qui me gênent en fait. D'abord, il y a le fait que un entraîneur ne s'attache qu'au résultat pour féliciter ou au contraire critiquer ses joueurs. Je trouve encore une fois qu'on n'a pas fait un match contre Châteauroux si différent de ce qu'on avait fait contre Grenoble. Or, le résultat est bien différent et les conclusions et les réprimandes de Duprat sont très différentes. Or, si un supporter, lui, peut s'attacher au résultat, l'entraîneur, lui, devrait plutôt se dire on a gagné, mais on a concédé trop d'occasions, donc c'est pas satisfaisant, et aujourd'hui on a perdu, certes, mais on va dire en faisant un match plutôt cohérent. Donc ça, à mon avis, c'est déjà problématique. Et ensuite, le fait de faire des attaques ad hominem en citant des noms de joueurs, en citant Joaquini, qui est en plus un jeune attaquant, ça marche à la confiance. Un attaquant de 19 ans, comme ça, prononcer son nom, en plus, laisser à penser, cette espèce de procès d'intention, laisser entendre qu'il rate une occasion, c'est à cause d'une sélection nationale. Là, c'est vraiment, non seulement c'est nul, mais en plus c'est bas, c'est vraiment, ça n'a aucun sens, à mon avis.
L'avantage d'avoir un prof de lettres comme consultant, quand même, au-delà de chez SoFoot, c'est qu'il est quand même capable de vous sortir ad nominem, ouais, comme ça, dans une émission. Alors là, je dis chapeau. Là, ça, c'est pour les auditeurs, c'est cadeau. Messieurs, en tout cas, c'est perdu, mais en tout cas, et là, je suis d'accord avec vous, Julien Maillot de SoFoot. On a eu le droit à une prestation qui était, moi, à mon avis, plus que correcte dans son déroulé. On a eu le droit à pas mal de confirmations, notamment en milieu de terrain, Pierre-Charles.
Ouais, exactement. On voit que ça commence à prendre place petit à petit. Et Prince Onyangé, je trouve, monte en puissance au fil des matchs, ce qui n'est pas inintéressant. Gonçalves qui revenait de blessure délivre la passe décisive sur la tête de Chukwunte. Donc non, il y a peut-être un milieu qui se met en place, c'est déjà pas mal. Dupraz semblait avoir trouvé sa charnière centrale avec Weber Rivierez. Il a l'air de s'être à peu près positionné sur ses latéraux, même si après la sortie, là, il pourrait y avoir d'autres surprises.
Il peut y avoir quelques changements,
voilà. Le milieu, ça a l'air de se mettre en place tout doucement. Voilà, il lui reste plus que les trois postes de devant à combler. Et puis il aura son équipe d'ici peut-être le 15 avril.
Ouais, mais justement, est-ce que c'est pas là qu'est la chose la plus importante, Julien Mailleux ? C'est que ça se met en place et que là, il y a des progrès tangibles quand même.
Bah oui, c'est exactement ce qu'on dit. On est tous d'accord là-dessus. Il y a des progrès. Même derrière, on a parlé de milieu de terrain, je suis entièrement d'accord. Je trouve que le milieu de terrain qu'on a vu contre Châteauroux était assez complémentaire, assez polyvalent, beaucoup plus d'ailleurs que quand il y avait JCP la semaine dernière. Voilà, il y a une vraie activité, il y a une vraie... voilà, c'est cohérent à la fois défensivement et offensivement. Et même derrière, je trouve que les joueurs qu'on a quand même pas mal critiqués en début de saison, comme Rivierez et...
Rivierez, clairement, ça a pris une autre ampleur. Ouais, hein, ça clairement. Fait deux mois et demi, c'est une autre ampleur.
Complètement, Rivierez, c'est pas pour rien qu'il est capitaine, je pense qu'il le mérite. Et même, je trouve qu'on Châteauroux, Weber, son collègue, a fait un très bon match également. Il a dégagé pas mal de situations chaudes. Donc pour moi, en fait... C'est vraiment surprenant quand même, cette attaque au moment où on est tous en train de se dire « Tiens, il y a quelque chose qui se met en place, il y a des joueurs qui semblent assez évidents à leur poste, ce qui n'était pas le cas avant. Vadisseri, il y a encore quelques semaines, on avait des doutes. Maintenant, on sait que, encore une fois, il s'est procuré tellement d'occasions, il a créé tellement d'occasions. Maintenant, c'est une évidence. Et évidemment qu'il doit être titulaire et c'est pareil pour Djoakimi. Voilà. Je trouve qu'il y a des choses qui se dégagent, qui se mettent en place. Et est-ce que c'est le meilleur moment pour faire feu de tout bois et tirer dans le tas ? Je ne suis pas sûr.
Moi, je pars du principe que la saison de Malherbe aujourd'hui, elle est quasi morte. Hein, on va pas se leurrer.
Elle est de toute manière.
Oui. Enfin, il y a encore le maintien assuré qui est pas mathématiquement tout à fait fait. Mais voilà. Moi, la seule chose.
C'est mathématiquement possible.
Oui.
La seule chose qui m'inquiète, c'est que voilà, on explique que là, Dupraz a peut-être trouvé son milieu. Pourquoi pas. Donc, on a Prince Onyangé qui était censé être vendu cet été, qui ne l'a pas été, qui était toujours disponible à la vente cet hiver, qui n'a pas été vendu, qui va probablement l'être de nouveau cet été. On a Jesse Deminguet qui est probablement une des rares valeurs marchandes du club. On a Goncalves qui est suspendu ou blessé un match sur trois. Donc ça veut dire que l'année prochaine on repart de zéro en fait sur ce milieu de terrain.
Julien Mailleux.
Ah oui, après je suis assez d'accord, c'est assez dommage. Le problème en fait c'est qu'on arrive à trouver, identifier une équipe complémentaire aussi tard. Après le fait qu'un mercato peut tout bouleverser, c'est un peu le lot des équipes telles que le Stade Malherbe, dont les meilleurs éléments vont évidemment être sollicités. Donc oui, je suis d'accord avec Pierre-Charles, c'est problématique de se dire que dans quelques semaines, cet équilibre précaire va sans doute être bouleversé. Toujours est-il que ce ne sera pas le cas que pour nous, ce sera le cas pour toutes les équipes, probablement de Ligue 2.
Bon, pour ce qui est du championnat et du terrain, on est tous d'accord sur ce que l'on a entendu et vu en termes d'analyse. Maintenant, on va aller sur les bords du terrain parce qu'il s'est passé quelque chose, figurez-vous, la semaine dernière et quelque chose de peu commun.
Le Club Foot sur Tendance Ouest.
La semaine dernière, le président Fabrice Clément du Stade Malherbe de Caen a convoqué une conférence de presse un peu détendue, un peu...
Café croissant quoi.
Voilà, le petit café, il n'y avait pas de croissant, il n'y avait que des cafés. Café croissant effectivement, et puis il s'est mis à nous parler tout simplement d'un sujet clairement que l'on n'aborde jamais. C'est limite un des plus grands tabous du sport professionnel, ce sont les budgets. Les affaires de gros sous, et lui, il a décidé d'ouvrir les portes et de nous expliquer comment ça se passait. Voilà, donc une opération éclaircissement assez rare pour être soulignée. D'abord sur les finances, puis ensuite, et c'est aussi intéressant, avec Pierre Esnay, le président des actionnaires majoritaires du club, qui lui aussi était présent. Ils ont tous les deux expliqué ce qu'allait être l'avenir. On en vient d'abord aux finances avec le président Fabrice Clément. Voilà ce qu'il nous a dit.
Une descente en Ligue 2, elle est violente. Et puis financièrement, ça a bien sûr des conséquences. Donc tous ces sujets-là ont été préparés, accompagnés. Et les différents passages devant la DNCG ont montré que l'entreprise Malherbe, Stade Malherbe, termine la saison sans aucun problème. Un club de foot aujourd'hui, par essence, est déficitaire dans le sens résultat financier. Vous avez des recettes qui sont la billetterie, les droits télé, partenaires, les ventes de maillots. Et puis en face de ça, vous avez des charges, dont la masse salariale des joueurs qui est très importante. Ben, il y a besoin de compenser et de créer de la valeur avec, avec des transferts. J'en commençais à entendre des choses et qui étaient fausses d'une part, ce n'étaient pas des bons chiffres. Et puis d'autre part, qui étaient un peu alarmistes. Dans mon rôle de président, c'est aussi de protéger le club sur des éléments extérieurs qui viendraient le desservir et l'handicaper. Et je ne laisserai pas faire ces éléments-là.
Le Club Foot sur Tendance Ouest.
Julien Mailleux, est-ce que, évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur tendanceouest.com avec les détails que le président Fabrice Clément a pu nous apporter? Est-ce que, Julien Mailleux, ça vous a éclairé sur la situation globale du club, cette opération de Fabrice Clément?
Oui, alors déjà j'ai bien aimé en fait l'effort de communication qui a été fait, le fait comme ça de convoquer, de solliciter des journalistes de la presse locale pour expliquer, pour détailler des choses. Je trouve ça vraiment sain comme comportement, comme volonté. Autant j'ai tendance à critiquer un peu la communication de Pascal Ducrat, autant là je trouve ça vraiment cohérent.
Oh ben c'est rare pourtant. C'est rare. Non, là c'est cohérent vraiment.
Oui, voilà, c'est cohérent, c'est vraiment sympa en fait comme démarche pour les journalistes et pour les supporters, pour être au courant de tout. Et en même temps, je me dis, cette façon de communiquer, on va dire de si tôt, à mon avis quand même, ça annonce, c'est une façon aussi de se prémunir pour l'avenir, ça annonce probablement un mercato qui sera très frileux. On a bien compris quand même qu'on ne roulait pas sur l'or et que la situation n'était pas rose. Il n'y a pas de raison de s'affoler, mais à mon avis, il n'y a pas non plus de raison d'espérer de grands renforts lors du prochain mercato.
Votre analyse, Pierre-Charles Binet?
Oui, ben un peu comme Julien. Moi, perso, je n'ai pas appris grand-chose de l'aspect mécanique d'un club de foot, que voilà, c'était toujours déficitaire, que c'est les transferts qui équilibraient. Maintenant, ça veut dire aussi qu'à la fin de la saison, Malherbe va devoir vendre pour équilibrer. Et on en revient à un débat qu'on a eu il y a quelques semaines, qui était juste avant le mercato d'hiver. Quelle valeur marchande à Malherbe, si ce n'est Deminguet, si ce n'est peut-être Gioacchini, même s'il ne défend pas, et peut-être Prince Onyangé, mais qui aura au moins, vendu cher ou pas, ça aura au moins le mérite de faire réduire la masse salariale, et ce qui réduira les charges par essence.
Messieurs, il y a eu un autre pan d'aborder dans cette entrevue, puisque Pierre Esnet, extrêmement rare en parole, en l'occurrence le président du SMC10, les actionnaires majoritaires, les 13 actionnaires majoritaires du club, lui aussi s'est exprimé. Alors lui, c'est plutôt pour nous apprendre quelque chose qu'on ne savait pas forcément.
Une descente en Ligue 2.
Bon, j'ai toujours entretenu d'excellentes relations avec tous les actionnaires. Hein, donc, mon rôle, effectivement, c'est d'apaiser les choses et puis de faire en sorte que les actionnaires puissent se parler et puis échanger tout à fait normalement. En tout cas, moi, à titre personnel, j'ai la chance de ne pas avoir de passif avec personne. Donc, voilà. Ça va faire 2 ans que j'essaie de trouver des solutions directement avec l'ensemble des actionnaires. Bon, c'est toujours un peu difficile parce que le passé est toujours là. Et pour essayer de trouver des solutions pérennes, en tout cas, il fallait essayer de faire intervenir une personne extérieure. Donc, effectivement, on a demandé à un médiateur de rencontrer la totalité des actionnaires. Et on a demandé à ce médiateur de nous proposer des solutions de manière à ce que tout le monde se sente à l'aise au sein du groupe. Hein. Voilà. Ce qu'on essaie de trouver, c'est la bonne organisation future. Le temps participe aussi à ce que les choses s'apaisent.
Le Club Foot sur Tendance Ouest.
Bon, la traduction, elle est simple, messieurs. Depuis l'éviction de Jean-François Fortin en 2018, ça a toujours été la tempête dans ce club des 13 actionnaires, avec les pro-Fortin, dont fait partie Pierre-Antoine Capton notamment, et puis les autres, puisqu'ils ne sont pro plus personne. Maintenant, ils sont les dirigeants du club. Pierre-Charles Binet, on est dans quelle situation, là?
Alors, déjà, le Stade Malherbe a un fonctionnement un peu spécifique par rapport à d'autres clubs. C'est que les 13 actionnaires sont tous actionnaires à part égale du budget. Ce qui veut dire qu'un actionnaire ne peut pas dire voilà, je remets 10 millions d'euros au pot.
Impossible.
Donc,
à moins que les autres remettent aussi.
Voilà, il faut que les 13 autres remettent au pot. Alors là, ça fait 130 millions, si je ne me trompe pas, de budget. Alors là, c'est Byzance. Donc ça montre déjà que ce système-là, de fonctionnement nécessite qu'il y a quand même 13 personnes à faire cohabiter autour d'une même table.
C'est toute la difficulté de Pierre Esnet pour en arriver à nommer un médiateur.
Il va peut-être s'arracher quelques cheveux ou il s'en arrache déjà peut-être depuis qu'il y a eu l'éviction du camp Fortin. Et on voit que oui, mine de rien, cette éviction-là, bonne ou pas bonne. L'année dernière, dans la bonne forme ou dans une mauvaise forme, chacun jugera, a fait beaucoup de mal au Stade Malherbe, ça c'est certain. Mais est-ce que, même sans ce départ, on n'aurait pas eu aussi à terme à un moment les limites de ce modèle de 13 actionnaires majoritaires à part égale ?
Julien Maillot de SoFoot, ça vous inspire quoi ce que vous venez d'entendre de la part de Pierre Esnet ?
En fait, ce qui m'étonne moi un tout petit peu, c'est de voir que les 13 actionnaires, et notamment Pierre Esnet, soient aussi confiants en la viabilité de ce projet dans un club professionnel en fait, sur le long terme, que c'est fonctionné pour l'instant, admettons. Est-ce que ça a encore réellement un avenir aujourd'hui?
Sauvegarder, si, en cas de descente, ça l'a prouvé à chaque descente, et c'est encore en train de le prouver à celle-ci, Jean-François Fortin présent ou pas, le modèle permet d'éviter le crash absolu qu'ont pu connaître des équipes comme Sochaux, comme Nancy dans les dernières années. En revanche, bien là sûr, où je vous rejoins, c'est en cas de montée.
Oui, voilà, mais il y a quand même un problème avec tout ça. C'est-à-dire qu'à la limite, on peut douter de l'intérêt, on va dire, stratégique et financier en cas de descente. Ça, je peux bien l'admettre. Mais en termes d'ambition et même de projet sur le long terme, quand on a 13 actionnaires qui peuvent pas se blairer, on a l'impression que c'est une classe de CE2 et qu'on est obligé de nommer un médiateur pour intervenir entre eux. Enfin, on est où là? Est-ce qu'on peut vraiment pas trouver un modèle un tout petit peu plus cohérent que ça pour gérer la destinée d'un club professionnel? Personnellement, j'ai un petit doute à ce sujet. On sait très bien qu'il y a plein de gens qui peuvent pas se voir. Est-ce qu'on peut vraiment espérer progresser dans ces conditions-là? Moi, c'est à ce niveau-là que j'ai un doute en fait.
Ouais, le progrès, on va voir en tout cas ce que ça donne, mais pour le moment on est plutôt à l'heure de l'assurance pour le club canet. Alors clairement dans le discours, pour vous détailler un petit peu, le président Fabrice Clément et Pierre Esnet ont assuré qu'il y avait à minima 2 années de tranquillité pour Caen en termes d'équilibre de budget. Après advienne que pourra, d'où l'importance effectivement précitée par Fabrice Clément de créer de la richesse dans cet effectif. Mmh. Alors ça passe par la formation qui reste plus que jamais la clé de voûte de l'idée malherbiste dans les prochaines années. En tout cas, il nous semblait important de revenir sur cet épisode parce que, pour vous aussi, les auditeurs de Club Malherbe, c'est un aiguillon extrêmement important qui permet de comprendre ce qui s'est passé et surtout ce qui va se passer dans le prochain mercato. Ce qui va se passer un peu plus près, c'est huis clos, coronavirus, et on invite notre doc sur ce plateau pour parler de tous les atermoiements autour de ce virus venu de Chine.
Le Club Foot sur Tendance Ouest.
Bonjour Doc.
Bonjour Sylvain.
Ça va bien ?
Très bien.
Bon, vous avez pas le coronavirus vous ?
Non.
Non, ça va ? Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant pour vous ?
Bon. Eh ben, faut espérer que ça va continuer comme ça.
Faut espérer que ça va continuer. Alors, on va pas vous le cacher, on a plein de questions à vous poser sur, depuis cet arrêté pris par le ministère de la Santé, Olivier Véran, le ministre de la Santé, puis ensuite, j'ai envie de dire, mis au goût du jour et du sport par le ministre des Sports, Roxana Maraciné à nous, on le sait, depuis le lundi 10 mars, les manifestations de plus de 1000 spectateurs, acteurs compris, sont interdites, les rassemblements qui vont avec aussi. Première question, est-ce que ces mesures, et c'est une question que beaucoup se posent aujourd'hui, sont selon vous, professionnels de la santé, médecins généralistes, des mesures qui sont légitimes ?
Moi, tout à fait. Je pense tout à fait, parce qu'en fait, le ministre l'a bien expliqué, mais il y a plusieurs épidémiologistes qui l'ont expliqué auparavant, c'est que l'épidémie, elle est inévitable, le virus va se répandre. Le vrai souci, il n'est pas tellement au niveau individuel. On sait effectivement que ça atteint les personnes fragiles, que ça atteint les personnes âgées. Donc, il faut effectivement limiter au maximum la contamination pour éviter le maximum de problèmes. Le problème risque de se situer à l'échelon collectif. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de malades, énormément de formes bénignes. C'est-à-dire les gens vont avoir un petit syndrome grippal et puis ça va se passer très très bien. Mais on sait qu'il va y avoir un certain nombre de pourcentages de formes graves, 10 à 15%, qui vont nécessiter une hospitalisation. Donc, si on a peu de malades, si mettons qu'on ait 10 000 malades en France, 10%, ça fait 1 000 hospitalisations. On gère. Si on a 1 million de malades, 10%, ça fait 100 000 hospitalisations. Ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. Donc, l'idée, c'est de freiner au maximum l'épidémie pour qu'on ait le moins de malades possible et pour qu'on ait le moins d'hospitalisations, pour qu'on puisse gérer. Le danger, il est essentiellement pour le système de santé, pour qu'on puisse prendre en charge tout le monde. C'est pour ça qu'ils veulent retarder au maximum l'épidémie, lisser dans le temps, parce que même si on a beaucoup de malades, il ne faut pas qu'ils arrivent tous en même temps. Donc moi je pense que toutes les mesures qui sont prises pour limiter la contagion sont bonnes.
Pierre-Charles, question.
Mais alors est-ce qu'il y a On va dire, est-ce que faire 1000 personnes dans un stade, c'est mieux qu'une dizaine de mille comme on peut avoir en Ligue 2 au Havre ou à Caen, ou même peut-être 20 ou 30 000, voire 40 sur des stades de Ligue 1? Pourquoi au final ne pas mettre un huis clos complet d'office?
D'où vient ce 1000?
Est-ce que ça
vous,
change
Doc,
quelque chose ou pas ces 1000 personnes?
Moi je pense que ça change pas grand chose. De toute façon, les stades, je crois que le problème il est réglé, c'est huis clos.
Ou 1000 personnes.
Alors, 1000 personnes, ça peut se défendre. Parce qu'en fait, le virus il saute pas non plus à la figure comme ça. On sait qu'en Italie, enfin voilà, il faut une distance. Si on reste à 1 mètre 50 et qu'on prend les mesures habituelles, bien se laver les mains, pas s'embrasser, on sait qu'on va pas être contaminé. Ça protège la distance. Donc 1000 personnes dans un stade de 20 000, on peut largement espacer les personnes. Après, c'est une organisation un peu particulière, c'est un peu curieux. Mais ça peut se tenir de ce fait-là, quoi. Après, je pense que le mieux, c'est quand même de chacun faire un effort et de limiter au maximum les contacts.
Justement, on pense à tous ces sportifs. Alors là, on va élargir un peu plus. Allez voir ce qui se passe au basket, au handball, dans différents sports qui sont soit en salle, soit à l'extérieur. Comment on fait au niveau régionaux ou au niveau fédéraux pour se prémunir? Parce que là, il n'y a pas foncièrement, et c'est rare même, 1000 spectateurs dans une manifestation ou dans un match de handball ou de basket.
Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de décision de prise, effectivement. Tout le monde s'en tient aux consignes officielles qui varient tous les jours, hein, que ce soit en France ou en
Italie.
Est-ce qu'elles
vont encore varier, selon vous?
C'est probable. Peut-être pas à l'échelon national, mais localement, déjà, les consignes ne sont pas les mêmes dans l'Oise, par exemple. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits dans l'Oise parce qu'il y a des foyers. Donc, en fait, c'est adapté en fonction de la situation de chaque région. Donc, dans l'Oise, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques qu'en Normandie, par exemple, aujourd'hui.
Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, on en fait trop autour de cette épidémie?
C'est difficile à savoir. C'est un virus qu'on ne connaît pas. On a 2 mois de recul. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent de Chine. C'est-à-dire qu'ils sont en train de fermer tous les hôpitaux. Les contaminations cessent. On dit ça fait 2 mois, c'est très bien. En Chine, il faut quand même mettre un bémol. C'est qu'il y a eu un confinement extrêmement sévère qui n'arrivera pas en France et qui, de toute façon, s'il était imposé en France, ne serait pas respecté.
C'est aussi pour ça qu'on voit par exemple que le métro, pour le coup, à Paris n'est pas fermé, que des gros centres type Disney sont pas encore fermés, par exemple.
Disney, je comprends pas pourquoi. Le métro, ça s'explique parce que le métro, effectivement, ça va paralyser toute l'activité économique, ça met tout le pays à l'arrêt. Et pour ne parler que d'une seule chose, à Paris, si vous supprimez le métro, supprimez les transports, la plupart des soignants ne pourront pas se rendre à leur travail. Et ils vont être indispensables.
Et ça vaut pour les villes aussi, ça, ce que vous êtes en train de dire, les villes de Rouen, de Caen,
oui,
de Havre,
le tram,
ça vaut
le
pour
bus, tout à fait sûr.
Quel avenir vous donnez à cette situation? Aujourd'hui, on est dans des huis clos quasi totaux pour le sport. Est-ce que ça va aller au-delà du 15 avril? Est-ce qu'il faut déjà se préparer, pour être clair, à ce que ce soit pas stoppé le 15 avril?
Ouais, faut être assez optimiste. Là, quand même, les mesures, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis le départ. C'est quand même bien martelé toutes les mesures qu'il faut prendre. Si chacun les respecte, les contraintes sont pas importantes pour chacun d'entre nous, hein, si on regarde bien. Si on respecte ça, on peut quand même espérer qu'on limite la contagion et que l'épidémie ait la même cinétique qu'en Chine, que finalement, dans 2 mois, ça se tasse. Bon, 15 avril, on sera peut-être un peu juste, mais on peut penser que fin avril, on va être dans la même situation qu'en Chine, à savoir sur un déclin, donc pourquoi pas. Après, c'est vrai que ce qu'on dit aujourd'hui, ce sera peut-être complètement battu en brèche par ce qui va se passer demain, après-demain.
Le fameux stade 3, on en vient à ça, on en entend beaucoup parler, tout le monde en parle, et pas grand monde sait véritablement ce que c'est, vous le savez?
Le stade 3, clairement, c'est quand on est en phase d'épidémie, et alors pour écouter un peu tout ce qui est infectiologue, épidémiologue, virologue, et médecins, clairement, depuis quelques jours, tous les médecins s'accordent à dire qu'on est déjà en phase 3. Donc d'un point de vue strictement médical, je pense qu'on y est déjà. Politiquement, on semble n'être qu'en phase 2.
Ce passage en phase 3, il va être nécessaire, selon vous, au niveau de la santé publique, à un moment ou à un autre?
Oui, je pense que finalement, c'est pas tellement phase 2, phase 3. C'est qu'en fait, au fur et à mesure, ils vont adapter des mesures qui vont être plus ou moins contraignantes. Et qu'en fait, peu importe... Je pense pas que ça change grand-chose. En fait, c'est plus les mesures qui vont s'imposer les unes à la suite des autres.
Des mesures qui, évidemment, impactent les organisations. Vous le savez tous maintenant, les différentes organisations sont extrêmement barriérées aujourd'hui. Vous l'avez su il y a quelques instants avec Doc Pain, justement. Et on va continuer avec vous, cher docteur, que c'est parti pour durer. Pierre-Charles, une autre question peut-être sur un autre domaine.
C'est pas forcément du médical, mais là, moi, je souhaite surtout bon courage. au HAC et au stade Malherbe aussi, parce que là on leur dit voilà, vous avez le droit d'accueillir 1000 personnes dans le stade, donc à Caen il y a 7000 abonnés je crois, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un tirage au sort, on ferme les loges, on garde que les populaires, on se grille avec les partenaires, comment on fait?
On ferme d'où?
Ah bah moi enfin je pense que c'est déjà compliqué la situation pour les clubs. Le mieux ça serait de tout fermer, parce que de toute façon on va se créer un problème. Hein, en accueillant 1000 personnes sur les 7000, 8000, ça va créer des contestations forcément. Et puis, à la limite, à un moment, je crois qu'il faut voir quelle est la priorité. À un moment, si on dit on veut limiter l'épidémie, on a déjà des mesures très contraignantes, on y va, on y est. On est plus à 1000 personnes. Le problème,
plus de contraintes encore. Est-ce que c'est possible, selon vous?
À écouter tout le monde, c'est impossible. Mais en Italie, il y a 5 jours, c'était impossible. Là, ils sont tous confinés. Alors, est-ce que ça va être respecté? Ça, j'en sais rien. En théorie, tout est possible. C'est vrai qu'en pratique...
Vous, sur le terrain, vous vous sentez bien? Comment ça se passe, non?
Eh ben, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Je pense qu'on n'est pas du tout prêt à avoir des mesures plus contraignantes. Juste un sondage qui est sorti, et moi, je ne suis pas du tout surpris du résultat de ce sondage qui a été fait hier. Ne pas se serrer la main, qui est quand même un truc très utile. Il y a un sondage qui est sorti, il y a 85% des gens qui continuent à se serrer la main. C'est pas une mesure... Quand on réfléchit, c'est une mesure... extrêmement peu contraignante. C'est pas très agréable, mais c'est extrêmement peu contraignant individuellement. 85% ne la respectent pas.
Donc faut faire comme le doc, faut faire coucou quand on arrive là.
Voilà, c'est ce qu'il a fait,
le fait coucou.
Merci Doc Pain, ça fera 25€ pour vous la consulte, c'est ça? Ça fera 25€ pour cette consultation spéciale Club Malherbe du Doc Pain. En tout cas, on espère vous avoir aiguillé sur les suites qui vont se profiler à propos de ce coronavirus et à propos du stade Malherbe aussi, que l'on retrouve dès vendredi à Valenciennes, 20h tout pile, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en rouge et bleu. Salut!
Podcast by Tendance Ouest.